plein d'Atacama, un désert qui confronte le Chili à sa beauté comme à ses horreurs du passé, à ses origines comme à son histoire contemporaine. Quel rapport entretient le Chili à sa mémoire? C'est ce soir à partir de 21h. France Inter.
La différence.
Il est 15h04 à l'heure de retrouver Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis.
Ouais Daniel, j'ai un petit service à te demander. Il se trouve que ce matin, j'ai entendu sur France Inter qu'il y avait une boîte qui faisait du recrutement en faisant des parties de poker. Alors nous, avec Hélène, on avait envie de faire de la détente de cadres déprimés, tu sais, quand il y a des cadres dans des entreprises qui sont un peu stressés et déprimés. Et donc on envisageait de leur faire faire des stages de binette, c'est-à-dire de biner dans la serre à 14h quand il fait 45 degrés. Au bout d'une heure ou deux, globalement, ils sont détendus en sortant. Donc voilà, nous, on est prêts à détendre des cadres. On ne sait pas combien on doit le facturer. Je ne sais pas combien sera facturée la partie de poker. Mais nous, on est prêts à aider la France. Allez, tu revives. Portez-vous bien.
Salut à tous, Philippe de Grenoble. Dès ce soir, je veux m'asseoir sur la place et rester là. Je précise à tous ces commentateurs et experts en expertise radiophonique et télévisuelle, je ne suis pas un ultra-gauchiste encarté, ni spécialement jeune, ni RMiste, ni particulièrement à plaindre. Mais j'en ai marre de ne pas voir le sourire sur les lèvres de mes semblables, d'entendre parler de tous ces gens gras et opulents qui, entre deux leçons de morale, s'adonnent leur vice, se goinfrent d'argent et se gargarisent de leur réussite et de leur pouvoir. Le pouvoir, c'est nous. Nos aînés tunisiens, égyptiens et espagnols nous ont montré la voie et ont donné de la voix. Répondons en écho. La somme de toutes nos énergies fera fléchir, puis réfléchir, ces pseudo-puissants. Allez, bonne voix.
Il est souvent énoncé dans cette émission la gauche radicale ou anticapitaliste, l'extrême gauche, par opposition à la gauche d'accompagnement du capitalisme, laissant ainsi un vide et certains auditeurs dans une grande frustration. Entre la gauche du grand soir et celle du renoncement, il y a pourtant une gauche de dépassement du capitalisme. Le programme du Conseil national de la résistance, dans sa rédaction, et ses principes est l'exemple d'un processus possible de dépassement du capitalisme si la vertu des urnes et l'implication citoyenne le consolident. Régis de Nîmes.
Bonjour, ceci un message pour vous dire que la campagne de publicité qui s'étale actuellement dans toute la presse en pleine page et sur toutes les antennes de Radio France, France Inter, France Culture, France Info, etc. et qui dit que l'éducation nationale recrute actuellement 10 000 postes, 10 000 postes d'enseignants, pourquoi pas vous? Cette campagne est une tromperie, cette campagne est une diversion. Diversion et tromperie, pourquoi? D'abord parce que l'enseignement recrute chaque année des enseignants et chaque année on recrute beaucoup plus. Ensuite, parce que comme vous le savez, il y a eu des décisions de suppression et de non-remplacement de postes. Et pour faire avaler ces décisions un an avant l'élection présidentielle, pour donner l'image d'un enseignement qui recrute, c'est-à-dire tout le contraire en fait de ce que fait l'enseignement public, eh bien, on fait une campagne de publicité en disant « l'enseignement recrute ». En fait, l'enseignement ne recrute pas plus que d'habitude. L'enseignement recrute moins que d'habitude, l'enseignement ne renouvellera pas les postes, l'enseignement a supprimé des postes et va continuer d'en supprimer. Cette campagne de publicité est une campagne de publicité mensongère, c'est une campagne de diversion et d'intoxication de l'opinion publique. Merci de passer ce message et ça serait super qu'il passe juste après un de ces spots. Comme ça les gens verront d'autant mieux l'hypocrisie de cette campagne. Au revoir.
Eh bien, il semblerait que notre auditeur n'ait pas entièrement tort. Effectivement, les syndicats d'enseignants ne sont pas très contents de cette campagne qui coûte une petite fortune, la bagatelle d'1 300 000 euros. Et qui nous fait savoir que le ministère de l'Éducation nationale recrute. Or, voilà, il y a ça conteste dur, la pub qui masque les suppressions, c'est ce qu'on trouve sur le site du syndicat du SNU, le SEUNSA joue la même musique, et également dans le Figaro, en ligne, qui nous dit « Quelques 16 000 suppressions de postes d'enseignants sont cependant toujours prévues à la rentrée ». elles correspondent au non-remplacement de la moitié des 33 000 départs en retraite prévus, car en réalité le nombre de postes ouverts au concours d'enseignants baisse depuis 2007. 11 600 sont ouverts cette année contre 15 125 en 2010, 18 000 en 2008 et 23 000 en 2007. Donc il semblerait bien que notre auditeur n'ait pas entièrement tort quand il dit qu'il s'agit d'une publicité mensongère. C'est donc un sujet intéressant à suivre et je suis sûr qu'on entendra parler de cela dans les journaux à venir. Nous, on reste toujours en Espagne, à Barcelone, toujours, aujourd'hui, avec les indignés de la place de Catalogne. Et on va creuser encore pour essayer de comprendre ce qui se passe là, ce qui se dit, ce qui se débat, ce bouillonnement d'idées et de débats. Et puis, on va découvrir quelque chose, c'est que qui a inventé ce mouvement? Ah oui, c'est d'après le livre de Stéphane Hessel. Eh bien, pas du tout, c'est nous, là-bas chez J'y suis, qui avons inventé cette sorte de manifestation, cette sorte de révolution espagnole. C'est nous, ici, dans ce studio, qui avons inventé ça il y a 5 ans, c'est-à-dire les repères. Et oui, c'est un grand repère de là-bas, si j'y suis, qui a inspiré l'Espagne. Enfin, on pourrait croire ça. On pourrait croire ça, puisque il y a un repère de là-bas, si j'y suis, à Barcelone, depuis quelques années déjà, et on va faire donc une réunion du repère de là-bas, si j'y suis, sur cette place, avec nos amis de Barcelone et tous ceux qui passeront autour de nous, et vous allez voir que ça fait du monde. Voilà, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Voilà, je téléphone à propos des événements qui se passent actuellement au Maroc. Les forces vivent une véritable terreur, enfin, qui menace essentiellement les jeunes du mouvement du 20 février. Ils sont tabassés, menacés même de mort. C'est le cas de Omar Arradi, journaliste, qui a été tabassé devant son ami et amené peut-être par la police. On ne connaît pas, on ne sait pas où il est en ce moment. Alors, ce qui est impressionnant, c'est ce silence coupable des grands médias en France. Si j'interviens, Daniel, c'est juste pour te demander, parce que tu le fais toujours sur des bonnes causes, merci de contribuer à briser ce mur de silence, parce que les médias en France, je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, les jeunes sont venus, se sont déplacés. Ils ont été à l'Assemblée nationale. Ils ont été reçus par le président du groupe socialiste, Monsieur Ayrault. Et ils ont justement dénoncé ce silence de la France, de l'État français, des médias français. Pour changer les choses, ils comptent sur eux-mêmes. Ce mouvement compte sur lui-même. Mais ils comptent aussi sur les démocrates à l'étranger pour pouvoir les protéger contre les crimes de Mohamed VI, qu'on essaie de nous présenter comme un grand démocrate et un roi visionnaire et moderne. À bientôt.
Une négociation avec les partenaires sociaux, une évaluation des difficultés actuelles, des coûts pour les différentes parties, de l'efficacité et des conséquences d'une telle mesure sur le marché du travail.
Et Yacoucou, là, vous venez d'entendre une Roselyne en train de noyer le poisson où? Eh bien, au Sénat. Le sujet, c'est la modernisation du congé maternité, un sujet important présenté par des socialistes que Roselyne essaie d'éviter le plus possible. Mais c'est pas trop grave, puisque malgré les efforts du cadreur pour ne pas nous montrer l'hémicycle du Sénat, eh bien, l'hémicycle est vide, et quasiment vide, aux trois quarts vide. Où sont les sénateurs? Où sont les élus? Où sont nos élus? C'est quoi ce bazar?
Pour nous assurer que nous allons bien dans le sens d'une juste et durable conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
Plaça Catalunya, Barcelone.
Bon dia. Ça fait 13 jours qu'on est là maintenant. Buen dia, bonjour.
Buen dia.
Ça fait 13 jours qu'on est là pour changer le monde.
Salut, c'est Daniel Mermet, et là-bas si j'y suis avec Antoine Chao. Une brèche dans le mur de la résignation.
Flight number 2, arriving.
Voilà, c'est le petit matin sur la Plaza Catalunya, à Barcelone. L'acampada, le campement, se réveille doucement. Et dans quelques instants, on va tenir une petite assemblée des repères de là-bas si j'y suis de Barcelone. Voilà. Le Barna, si j'y suis, va réunir ses adhérents, ses supporters. Voilà, les supporters du Barna, si j'y suis, vont se réunir là, sur le côté de la Plaza Catalunya. Il n'y a pas de pain pourtant de chorizo. Les chorizo, c'est le voleur en fait.
Vous avez vu le plan social, 360 ouvrières sur le carreau. Ah ouais, c'est terrible, je suis d'accord avec vous. Mais que voulez-vous, il y a la concurrence mondiale, il y a l'appétit des actionnaires. Vous avez vu le réchauffement, la glace qui fond, les ours blancs qui se noient. Ah, c'est terrible, je suis d'accord avec vous. Mais que voulez-vous, il faut assurer la croissance, nous n'avons pas le choix. Et vous avez vu les reconduites à la frontière, les Roms traités comme des chiens? Oh, c'est terrible, je suis d'accord avec vous. Mais que voulez-vous, ici les gens sont tellement racistes, ils seront mieux chez eux. Et vous avez vu les huissiers à votre porte, vous êtes expulsés. Ah. C'est terrible, je suis d'accord avec vous, mais que voulez-vous? J'ai perdu mon boulot, il faut être réaliste, je peux plus payer le loyer. Hein? Et vous avez vu? Vous êtes dans la queue pour les restos du cœur. Bah, ouais, c'est terrible, je suis d'accord avec vous, mais que voulez-vous? D'un autre côté, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Le CAC 40 a augmenté de 85% en 2010 par rapport à 2009. Alors, et vous avez vu à Madrid, à Barcelone, à Athènes, ces milliers d'indignés qui se mobilisent sur les places, qui débattent, qui protestent pour plus de démocratie, contre la domination des banques, hein? Ça vous intéresse pas, ça? Bon, à quoi ça mène? C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Pas assez de pain pour tous ces voleurs, une brèche dans le mur de la résignation.
Que hubo una manifestación de microbios, una nube de tábanos, una floración de mamíferos, una cola de gusanos, una fiesta de fósforos, una bolsa llena de disquet, una montaña de merca, 20 kilos de mar, un toco de coquitas, una manada de mosquitos, un tropel de manzanas, una gaviota, 12 chicas de frente, un puñado de perros, un charco de sangre, una raya larga, roja, hecha con aerosol que empezaba en la pared y seguía unos metros por la vereda. Que los tragos pasan, queda el amor a la bebida. Por el vidrio del compás se ve girar el disco. Por la ventana pasar la luna. Por el inodoro hundirse los soletes. Por la puerta marcharse las mujeres. Por el agujero transparente de la muerte se va todo. Giran equipos enteros de audio. Se ve una hermosa caja de cartón blanca, muy áspera, plancha de Tergopol. Bruto. Guava, bestia, un fajo de billetes, un frasco de caños, una chica de goma que no enciende.
Alors déjà super, merci à tout le monde d'être venu aussitôt. C'est la première fois qu'on fait un café repère sur la ligne de front.
C'est nous qui avons inventé ce qui se passe là. Les repères, c'est ça. C'est ce que vous êtes là, vous êtes en rond.
en train de discuter, et c'est la base qui parle. Les gens ne viennent pas avec une étiquette, et essayent d'échanger, de parler, de prendre la parole, d'écouter, sans direction, sans que ça vienne du haut, ça vient par le bas. Au fond, c'est une forme d'éducation populaire, d'éducation politique populaire. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement depuis deux semaines en Espagne. C'est-à-dire qu'on assiste à ce bouillonnement, ce brouillonnement aussi, c'est très brouillon, d'idées, de projets, de constats qui sont évidemment produits par une situation économique, sociale, écologique aussi, particulière, une situation de crise extrêmement aiguë dont nous parlons depuis longtemps dans nos émissions, mais toujours un peu d'une façon théorique. Mais là, tout d'un coup, c'est chacun, c'est le peuple, c'est les gens qui sont tous touchés par cette ce qu'on appelle une crise, mais c'est une façon de cacher un autre mot, qui est le mot du capitalisme. Alors voilà, maintenant, on ne sait pas du tout ce que ça va devenir. Il y a des grands risques de récupération, mais il y a des chances aussi de changement, de modification. En tous les cas, il y a une rupture très nette et une invention indéniable d'une forme de lutte inédite.
Une des grandes questions qu'on se pose, c'est comment ça va évoluer le mouvement ici.
Attendez, on va mettre les... Moi, je suis étonné que vous soyez aussi désorganisé et aussi sous-équipé. Vous êtes en face du laboratoire le plus grand de démocratie directe. Vous avez vu, vous avez pratiqué depuis 13 jours, il n'y a personne qui prend les tours de parole. Et sous-équipé, vous n'avez pas le petit mégaphone pour que les Espagnols qui viennent puissent aussi participer. Alors, tour de parole, qui c'est qui prend les tours de parole?
Pues para mí, yo creo que una de las cuestiones principales aquí en el movimiento del 15M para la gente de aquí, de la península española, catalana.
Donc, d'après moi, un des éléments principaux de cette mobilisation pour les Catalans et les Espagnols.
Es que la crisis nos ha dado muy fuerte.
C'est que la crise nous a frappé fort.
Y nos hemos dado cuenta de que tenemos políticos que no están a la altura.
Et nous nous rendons compte que nous avons une classe politique qui n'est pas à la hauteur.
Que de repente hay actores qui affectent à nos vies, comme le Fonds monétaire international.
Ouais. Donc on se rend compte qu'il y a des acteurs, comme le Fonds monétaire international, qui impactent nos vies.
Comme les agences de rating.
Comme les agences de cotation.
Comme le Banco Central Europeo.
La Banque Centrale Européenne.
Que nadie vota.
Que personne vote.
Et qui affecte directement à notre état de bien-être.
Et que ça a une incidence directe sur notre bien-être
claro.
De vie, notre bien-être social.
Yo creo que este movimiento es el principio de la repolitización que comentaba Gabriel.
Donc moi je pense que ce mouvement c'est le début de la repolitisation.
Y de decir, vaya, el neoliberalismo es real.
Alors voilà, le néolibéralisme est réel et concret.
Y cuando las cosas van muy mal.
Et quand les choses vont mal.
Esto se ve muy directamente.
Ça se sent, ça se voit, ça se vit directement.
Exacto. Yo creo que este movimiento es un poco el reflejo de esto, de ya nos hemos dado cuenta y ya no lo queremos.
Et ce mouvement c'est ça. Ça y est, on a compris, on s'en est rendu compte et on va réagir.
Voilà un repère de la base. J'y suis sur la place de Catalogne à un dimanche matin, 11h du matin, avec donc voilà ceux qui participent depuis déjà pas mal d'années à ce repère. On est assis par terre en rond autour de Gabriel qui s'est fait engueuler par Antoine Chao parce qu'il n'avait pas de mégaphone et qu'il passait pas les tours de parole comme il faut, et il a bien raison. Et ce qui se passe, c'est que les badauds s'arrêtent, les passants s'arrêtent, mais c'est pas des badauds n'importe quel badaud. Ils écoutent, ils sont très très attentifs et ils ont qu'une idée, c'est prendre la parole à leur tour, prendre le petit mégaphone à leur tour pour dire ce qu'ils ont sur le cœur, dans la tête et dans les yeux.
Esta crisis también ha hecho visible.
Donc cette crise a rendu visible
que la clase media que estaba así como muy acomodada.
Que la classe moyenne qui était très confortablement installée dans le système
ne estaba también asegurada, no tenía la sensación de tenerlo todo y ya...
Elle pensait qu'elle avait tout, qu'elle avait réussi quoi.
Y han sido los que han salido peor de esta crisis.
Et c'est ceux qui ont été le plus touchés par cette crise.
Que voilà. Se han dado cuenta que no tenían todo lo que creían.
Et ils ont perdu les privilèges qu'ils pensaient avoir, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas tous les privilèges qu'ils pensaient avoir.
Y esto creo que ha hecho fuerte este movimiento también.
Et c'est ça qui a renforcé beaucoup ce mouvement.
Muy fuerte.
Voilà, parce que c'est une base très large, c'est une population très large.
Tiens. Je suis catalan, je suis espagnol, mais je suis une génération un peu plus grande.
Ouais.
Mais je suis en solidarité avec eux parce que je suis la victime aussi comme de toute la situation.
Si
querés, yo mismo la puedo hacer.
Si. Ah voilà, il va parler en français et en bilingue.
Ouais. J'ai seulement envie de dire que malgré que j'ai 48 ans, à pesar de que je tiens 48 ans, je suis en pleine solidarité avec eux, je suis en pleine solidarité avec eux, sensiblement parce qu'ils sont capables de faire tout ça que nous n'avons pas été capables. Parce qu'ils sont capables de faire ce que la notre génération antérieure n'a pas été capables de faire. Ils nous ont considérés adormis. Ils sont considérés dormants, complètement dormants. Alors, allez, cette protestation, et surtout, je suis, pas première fois, avec heureux d'être espagnol. Une chose difficile étant donné la situation de l'Espagne. Et grâce à la jeunesse, grâce à la juventud, je suis, par première fois, soc català i estic orgullós ara mateix de ser espanyol. I en pi.
Lo que hay aquí se llama cleptocracia para mí.
Ce qui se passe ici en Espagne, c'est de la cleptocracia.
Cleptocracia. Pero hace ya 36 años.
Mais ça fait 36 dictadura, ans, c'est-à-dire.
Dictadura cleptocracia.
On est passé de la dictature à la kleptocratie.
Exacto.
Ellos tendrían que ser un modelo de ejemplo para la ciudadanía. Y son un modelo de ladrones.
Nos hommes politiques qu'on a élus devraient être un modèle d'honnêteté pour le reste de la population. Et ce sont des voleurs.
Un desfile, il y a un défilé.
Comme unos turistas y aplauden a los que están en la plaza.
Alors voilà, il y a des touristes qui traversent la place et ils applaudissent la mobilisation. Et en retour, ils sont applaudis aussi. Et ils vont monter dans leur bus parce qu'il y a juste un arrêt de bus à deux étages, là, juste derrière. Donc ils vont faire leur visite guidée sur leur autobus impérial.
Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma mère. Elle a 65 ans. Elle m'a dit qu'elle va participer dans les réunions qu'ils vont faire à l'Assemblée. Quand j'ai entendu ça de ma mère, j'ai pensé, wow, c'est très grand ce qu'il passe ici.
C'est à qui là?
Vous pensez que ça pourrait aller à d'autres pays, cette mouvida, et jusqu'à où vous arrivez?
Vous pensez que ce mouvement peut aller à l'étranger? Jusqu'où on peut aller avec ce mouvement?
Parece que la gente se cansa, porque se llega un momento que
bon, parce que est-ce que les gens vont pas se fatiguer tenéis, parce que si vous n'avez pas de réponse immédiate, vous allez baisser les bras dans le mouvement. C'est ce qui est arrivé à notre génération. Moi aussi j'ai lutté. J'ai 53 ans. Et nous on pense que la jeunesse aujourd'hui, vous étiez très calme, trop tranquille. J'avais l'impression que vous regardiez vos parents travailler et que vous ne vous posiez pas de questions. Et jusqu'où irez-vous?
Ça fait 15 jours qu'on est sur les places, qu'on est dans la rue, qu'on se mobilise, qu'on fait des commissions, des assemblées. On s'organise, on commence tout juste. Et comment on va régler en 15 jours les problèmes que les politiques n'ont pas su régler en 40 ans? Ce mouvement est l'exemple qu'on peut s'auto-organiser, qu'on n'a pas besoin des partis politiques et des syndicats pour s'indigner, pour s'organiser et pour commencer à changer les choses.
A mí me ha gustado mucho lo que él ha dicho de que está empezando. O
sea, moi j'aime ce qu'il dit le jeune là. Ça commence effectivement.
Está empezando a tomar responsabilidad.
On commence à prendre des responsabilités.
Porque antiguamente nadie ha tomado responsabilidad.
Parce que jusqu'à présent, personne ne se responsabilisait. Il y avait des socialistes, PP, PP, PP,
et le peuple se résignait.
Et le peuple avait ce qu'il méritait.
Hemos dejado que ellos tengan el control sobre nosotros.
On leur a laissé prendre le contrôle sur nous.
Ils ont fait ce qu'ils
avaient envie.
Pero nosotros hemos permitido que hagan
eso. Parce que nous, on les a laissé faire.
Y cuando tomamos conciencia de lo que nosotros hemos estado haciendo, donde hemos fallado,
mais quand on prend conscience de ce qu'on a fait, d'où on a fait des erreurs, c'est là qu'on peut prendre des responsabilités pour changer les choses.
Y esto es la iniciativa primaria para
hacer algo. Et ça, c'est l'initiative première pour que ça démarre.
Voilà un cercle de parole du repère de la Basilicue de Barcelone sur cette place de la Catalogne, le dimanche matin. Alors on dit, oui, c'est des jeunes, beaucoup, des jeunes qui mènent ce mouvement. Eh ben pas seulement, la preuve, Pepita, qui est une dame âgée, handicapée, qui est dans son fauteuil roulant, accompagnée par une femme plus jeune, qui tient absolument à s'exprimer et à ce qu'elle s'exprime, que cette dame qui s'appelle Pepita s'exprime, 80 ans.
Alors c'est une dame qui va parler.
Sí que puedes, Pepita, habla.
Alors c'est Pepita qui est âgée.
vida.
Ça, c'est la meilleure chose que j'ai vue dans ma vie.
Ella es una persona luchadora.
Elle, c'est une lutteuse.
Y está muy atenta.
Elle est vraiment à l'écoute de ce qui se passe.
A través de la televisión.
Par la télévision.
Porque está totalmente inválida.
Parce qu'elle est complètement invalide.
Lleva muchos años esperando algo, el germen.
Ça fait des années qu'elle attend ce germe.
Y no ha podido quedarse en la residencia, casi no puede hablar.
Elle a pas voulu rester dans sa résidence, bien qu'elle ne puisse presque pas parler non plus.
Porque necesitaba veros.
Parce qu'elle voulait voir, elle voulait participer.
Ella siempre ha ido a votar a las izquierdas.
Elle a toujours voté à gauche.
Y esta vez, para mi asombro.
Et cette fois-ci, à mon étonnement.
Me ha dicho que no ha ido a votar.
Elle m'a dit qu'elle n'était pas allée voter.
Porque los indignados de la Plaza Cataluña.
Parce que les indignés de la Plaza de Catalunya.
No lo hacían.
Ne le faisaient pas.
Pepita.
Viva la juventud.
Vive la jeunesse.
Adelante.
En avant.
Hace muchos años que lo estamos esperando.
Ça fait longtemps qu'on attendait, qu'on vous attendait.
Viva toda la juventud.
Viva toda la juventud.
Vive toute la jeunesse.
Adelante.
En avant, adelante. Gracias.
Alors c'est formidable, hein, c'est là on assiste et on participe. Un repère de la base où j'y suis, il y a une petite centaine de personnes là, hein. Il y a le cercle des AMG là autour de, en rond, et puis debout, il y a le public de tous les âges, de tous les milieux, et d'ailleurs c'est plus le public qui est à l'extérieur du cercle qui parle que les AMG. Les AMG laissent parler les gens qui sont à l'extérieur qui passent.
Buenos días a todos. Mi nombre es Paco.
Je m'appelle Paco.
Viviendo la tercera juventud.
Ben, je vis ma troisième jeunesse.
En primer lugar, dado que estamos rodeados de franceses,
donc,
que están haciendo una labor muy interesante,
un beau travail.
Yo quiero enviar un mensaje al señor presidente.
Moi, je vais envoyer un message à votre président, Sarkozy.
Según él,
parce que selon lui,
en España no quería equiparar con los países del norte de África.
Oui, il ne fallait pas comparer avec ce qui s'est passé
en
Tunisie ou en
Afrique du Nord.
Parce qu'ici, en Espagne, il considère que la démocratie est fantastique.
Donc, dixit Sarkozy.
Semble-t-il qu'il était en contact avec les hommes politiques espagnols. Voilà, il ne voulait pas de problème avec ses amis. Moi, quand j'étais jeune, sans mes cheveux blancs.
Estaba de immigrado en París.
J'étais immigré à Paris, exilé.
Y a los seis meses me encuentro con el mayo del 68.
Et au bout de six mois, je me retrouve en plein mai 68.
Bueno, para mí fue un despertar a la vida.
Moi, ça m'a réveillé à la vie.
Y solo recuerdo una persona que.
Et je me souviens d'une personne.
El señor Cohn-Bendit.
Cohn-Bendit.
Ah, ya acabó. este señor con toda su barborrea. Nos vendió
et Cohn-Bendit avec tout son baratin nous a vendu et nous a trahis.
Vale, un abrazo a todos.
Je vous embrasse tous.
Aprovechar de este espacio que es el único que tenemos libre hoy en día.
Cet espace de liberté ici sur la place.
Gracias, Paco.
Aparición de nube industrial. Me salido medio miedo. Sabía que ya había sido amada. Pero supe enseguida que contaban para mí. No intentaste seducirme, fuiste simple acarreadora y real. Ningún gran efecto, nada inútil, ni preparado sincero, todo tan verdad. No sabía que existías, no sabía dónde estabas. Te encontré y ahora tengo ganas de conocerte. Me ofreciste tu techo. De mí no esperabas nada. Tu parecer feliz y sereno me quito todo completo. Daría mucho para volver a pasar otra noche en ti, contra ti. Quizás en tus brazos. Aparición en nube industrial. Me he salido medio miedo. Sabía que ya había sido amada. Pero supe enseguida que cantaban para mí. Hey,
place de la Catalogne à Barcelone. On continue en ce dimanche et on retrouve nos amis Sylvana Dahan et Luis Rabell, tous deux vieux militants, engagés, observateurs. Sylvana est française, Luis est catalan, et ils sont de bons observateurs engagés de ce qui se passe dans leur pays, de ce qui se passe dans cette ville, et l'histoire et la mémoire de cette ville, ils la connaissent, et ils sont absolument ravis, ébahis de ce qui se passe autour d'eux. Ils ont une cinquantaine passée, disons. Voilà, et voilà comment ils analysent ce qui se passe autour d'eux en ces journées peu ordinaire.
Maintenant, les gens n'ont plus peur. Pendant toute une période, les gens avaient peur, non ? Ça n'a pas cette sensation. Ici en Espagne, une peur un peu irrationnelle, mais la peur de s'engager, la peur...
Peur irrationnelle, oui. Avec 40 années de dictature, on peut comprendre. Tu as vécu ça, Luis ?
J'ai commencé à militer dans la clandestinité, oui. Oui, c'était pas une blague. L'époque où on faisait les manifestations les plus importantes ici, c'était ici, sur la place de la Catalogne. Et à l'époque, c'était la garde civile, l'armée qui occupait le centre, là où il y a maintenant la campada. C'était là la garde civile. Et nous, on manifestait tout autour. Et on se faisait courser par la cavalerie. Oui, j'ai connu cette époque-là de la dictature. Et c'est vrai que le souvenir de la guerre civile, dans la mesure où la transition dite démocratique s'est faite sans rupture démocratique, c'est-à-dire que, en fait, on est passé d'une dictature à une monarchie constitutionnelle sans que personne, aucun des responsables de la dictature n'ait eu à rendre compte de ses agissements. Ça a laissé, quand même, dans l'inconscient collectif, une certaine peur flottante à l'égard du pouvoir, de l'État.
Et aussi des mouvements sociaux, des mouvements de contestation. Vous, la contestation, la révolution, ça laisse de très mauvais souvenirs, alors que nous, c'est quand même des souvenirs héroïques qu'on arrange tant qu'on peut, qu'on héroïse a posteriori, évidemment. Vous, c'est pas le cas.
Parce qu'on a perdu. Nous, on a fait une révolution, on a perdu. Et on a vraiment perdu. Et on avait tenté de s'en sortir d'une dictature. Et quand on croyait qu'on pourrait avoir une rupture démocratique à la mort de Franco, c'est-à-dire, ma génération était convaincue... Ma génération militante de gauche était convaincue que à la fin du franquisme, il y aurait, sinon une crise révolutionnaire qu'on croyait possible, une période d'agitation sociale et politique, et que l'avenir nous appartenait. On était convaincu qu'on arriverait à une révolution. Finalement, on est arrivé non seulement pas à une révolution, mais plutôt à une continuité de l'appareil du régime antérieur, qui a été sauvé par un pacte avec l'opposition démocratique, l'opposition de gauche. Alors, ça a un prix. Ces choses-là ont un prix. C'est qu'il y a eu une génération perdue. La génération suivante à la nôtre a subi les effets d'une dépolitisation. Ça, c'est important, d'un côté. Et d'un autre côté, le fait qu'il n'y ait pas eu une rupture démocratique, ça a laissé dans l'inconscient collectif aussi un non-bilan de la guerre civile. C'est-à-dire, finalement, ce qui s'est installé, c'est l'idée que c'était une guerre encensée entre frères, mais où ils étaient tous coupables, dont on garde comme souvenir la peur, mais pas le bilan politique. Il s'agit surtout d'oublier le passé plutôt que de le comprendre. C'est l'idée de préserver la continuité, non seulement dans l'appareil d'État, au niveau policier, juridique, magistrature, etc., fonctionnaires, hauts fonctionnaires, mais aussi cette idée profonde de la continuité juridique. D'ailleurs, on demande, c'est une revendication, que les procès du franquisme soient annulés. Et ce n'est pas possible. Et avec la loi de la mémoire historique, on peut demander à un tribunal, par exemple, la famille de quelqu'un qui a été victime de la répression franquiste, qui a été jugé et fusillé. La famille peut revendiquer dans le tribunal qu'il émette un certificat qui dise que le procès n'a pas été juste. Mais le procès n'est pas annulé de cette démocratie hybride qu'on a en Espagne. Les classes sociales qui ont été les grandes bénéficiaires, celles qui ont profité vraiment de la dictature, en fait ont continué à être au-dessus et avoir une influence énorme sur l'État et ses politiques, et les politiques des successifs gouvernements. C'est-à-dire le poids d'une certaine oligarchie qui était toujours aux commandes, est resté aux commandes, et surtout très, très structuré autour du pouvoir financier, parce qu'en Espagne, Sylvia, sans doute, elle, c'est une des choses qui l'a frappé énormément, le pouvoir exceptionnel des banquiers en Espagne, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Sylvain parlait avant de l'histoire des gens qui se font expulser pour non-paiement d'hypothèque ou de loyer. Mais si vous ne pouvez pas payer l'hypothèque dans ce pays et on vous prend l'appartement, vous continuez à payer. Oui, oui, oui. C'était la procédure est la suivante. Et ça donne un exemple, même pour les Américains, pour un pays libéral comme les États-Unis, c'est un pouvoir exorbitant. Ici, quelqu'un ne peut pas payer une hypothèque. Bon, la banque lui saisit l'appartement. Alors, comme la banque, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vend aux enchères l'appartement, mais la vente aux enchères. Comme il n'y a pas d'acheteur, de repreneur, parce que le marché est dans la situation catastrophique qu'on connaît, la banque reprend l'appartement pour la moitié de son prix, de sa valeur, et le reste de l'argent, vous continuez toujours à avoir à le payer à la banque. C'est-à-dire, non seulement on vous prend l'appartement, mais on vous condamne à la misère à vie.
Et la banque est propriétaire de la maison.
La banque est propriétaire. La banque est propriétaire maintenant de milliers et de milliers d'appartements.
Et le drame, c'est que ça touche des personnes qui, en même temps, perdent leur travail.
Et tout ça dans un pays qui a vraiment cru au rêve néolibéral. Ouais. On a cru au rêve bling-ding.
Ouais, ouais.
C'est la fin de ce rêve. En fait, c'était quand même une opération énorme, surtout à partir des années 95, 98. C'était le moment du changement où c'était Aznar qui gouvernait. Et il y a eu ce qu'on appelle la loi du sol, c'est-à-dire une libéralisation, c'est-à-dire la possibilité pour les institutions, notamment pour les mairies, de transformer en sol constructible tout ce qu'ils considéraient opportun. Alors, c'était sans limite. Alors, c'était un processus fou où les mairies ont misé tout leur budget sur la spéculation du sol. C'est-à-dire, plus on construisait, plus le prix montait, plus la valeur du sol augmentait, plus les plus-values étaient importantes. À tel point qu'il y avait des mairies qui ont développé leur budget sur la base de la spéculation immobilière. Les mairies, c'est-à-dire le pouvoir public. Parallèlement qu'il y avait ce phénomène, c'est difficile de se faire l'idée, mais en Catalogne, seulement pour la Catalogne, entre les années 80 et l'éclat de la crise, en 2008, en Catalogne, on a construit autant de mètres carrés que depuis l'époque des Romains jusqu'aux années 80. C'est pour s'imaginer. Il faut s'imaginer ce qu'on a pu construire et combien de milliers de logements vides il y a maintenant. C'est énorme. C'était une folie. L'année d'avant de la crise, en 2007, l'Espagne a construit en une année plus que l'Italie, la France et l'Angleterre ensemble. Vous imaginez qu'est-ce que ça représentait comme bluff. Ça fonctionnait sur la base, très similaire aux subprimes américaines.
Voilà, c'est ça.
Et on poussait les gens à s'endetter. Ce qui faisait qu'avec des salaires très bas, les gens s'endettaient énormément. Je m'appelle dans mon travail des gars qui demandaient une hypothèque à la banque pour, disons, 300 000 euros pour s'acheter un appartement. La banque leur offrait 500 000 euros. Le poussait à prendre le 120 ou 130% de la valeur de l'hypothèque en leur disant, voilà, le crédit est bon marché, et comme ça tu peux t'acheter une bagnole, tu peux meubler ton appartement,
voilà,
les enfants, tout ça. De toute façon, il n'y a pas de problème puisque la valeur, ça va monter. De toute façon, à la fin, au bout du compte, ça vaudra beaucoup plus que ce que tu as payé.
C'est un
gros mensonge. Alors, parallèlement à ce bluff, il y a eu non seulement les salaires qui n'ont pas augmenté, mais le travail qui est devenu de plus en plus précaire. Alors, dans ces conditions-là, quand la crise a éclaté, ça a été l'effondrement littéral. En quelques mois, il y a eu des millions de chômeurs. C'est difficile d'imaginer une telle catastrophe. Des millions de chômeurs, dont beaucoup sont déjà en fin de droit maintenant.
Cet été, on arrive justement cet été à la période où les gens qui touchent une indemnité de chômage arrivent en fin de droit. Et là, on va voir des drames encore plus graves pour les gens.
Ah oui. Alors, on se trouve dans une situation où on est passé, comme tu disais, effectivement du rêve de richesse. La philosophie libérale, la doctrine, c'était laissons les affaires tourner, ça fera augmenter la richesse et au bout du compte, tout le monde en profitera.
C'est faux, parce qu'en fait, c'est une redistribution pour les actionnaires, mais pas pour l'ensemble de la société, et pas pour ceux qui y travaillent. Quoi. Par exemple, Telefonica, qui est une grosse entreprise, fait d'énormes bénéfices.
Cette année, déclaré officiellement 10 milliards de bénéfices.
De bénéfices qu'ils ont répartis aux actionnaires, et ils mettent 6 000 travailleurs à la rue. Alors bon, c'est ça qui ne fonctionne pas.
Rodea de tanta gente y yo me siento tan sola, mi corazón es como una bomba, pum, pum, una bomba de
Personne n'est normal. C'est une phrase de Caetano Veloso que Eduardo Galeano a choisi de mettre en exergue d'un de ses derniers bouquins, Paroles vagabondes, que je vous conseille chaleureusement. Eduardo Galeano est à la fois un journaliste, un écrivain et un homme engagé, mais avec un style particulier qui est politique et poétique à la fois. Pourquoi parler de lui ? Parce qu'il se trouvait à Barcelone. En fait, il est uruguayen, il s'est battu contre la dictature dans son pays, ensuite il est allé en Argentine, il s'est battu contre la dictature en Argentine, il a été exilé à un certain moment en Espagne, à Barcelone où il a vécu. Il est l'auteur des Veines ouvertes de l'Amérique latine, un livre qui date de 1971 et qui est un livre de référence puisque il y raconte avec son style à lui ce qu'a été l'histoire du pillage de l'Amérique latine depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours. Et il était là, il était sur cette place, il est reparti depuis. On n'a pas pu mettre la main dessus plus longtemps que cela, mais c'est un bon et grand et merveilleux moment que cet entretien avec Eduardo Galeano.
Je suis déjà allé à Puerta del Sol à Madrid et ici, il y a la même rencontre, la même énergie de dignité, le même enthousiasme. L'enthousiasme est une vitamine qui vient d'un petit mot grec qui veut dire avoir les dieux à l'intérieur. Et moi, à chaque fois que je sens que les dieux sont à l'intérieur, d'une personne ou de beaucoup, ou de choses, de la nature ou des montagnes, ou des rivières, et c'est à ce moment-là que je me rends compte que vivre vaut la peine. Alors je suis très content d'être ici, comme j'ai été déjà en Sol à Madrid, parce que ça donc ça prouve, c'est le témoin, ça témoigne du fait que vivre vaut la peine. La vie est bien au-delà des bassesses, de la mesquinerie politique, de si on gagne on perd, et d'une façon personnelle, individuelle aussi, que tu peux gagner ou perdre dans ta vie. C'est pas ça l'important. Dans cet autre monde possible, qui est en gestation dans le ventre de celui-ci, ce monde infâme, pas très accueillant, pas très chaleureux, dans lequel on est né, il y a un autre monde en gestation dans le ventre de ce monde-là, qui attend. Et c'est un monde différent. Un monde différent et dont l'accouchement est difficile. Mais par contre, c'est sûr qu'il est en train de battre à l'intérieur de ce monde. Et c'est certain qu'il existe. Je le vois, je le reconnais dans ces mobilisations spontanées. celle de Plaza Catalunya ici, celle de Sol à Madrid, où j'ai pu aller déjà. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'autres et qu'elles prouvent l'existence de cet autre monde. Et certains me demandent, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que ça va devenir? Et moi, je réponds ce que je sais de ma propre expérience. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer. C'est le temps présent qui m'intéresse. Et ce que ce temps présent annonce, un autre temps, un autre monde qui viendra. Mais qu'est-ce que ce sera au final? Je ne sais pas. C'est comme si je me demandais à chaque fois que je tombe amoureux. Quand je vis une expérience amoureuse, peu m'importe si je dois mourir à cet instant magique, quand il survient. Mais voilà, rien. L'amour, c'est comme ça, c'est infini. Et l'important, c'est qu'il soit infini. Il ne faut pas toujours se poser des questions comme si on était au guichet d'une banque. Quand on consulte son solde, alors si on demande aux filles très puissantes, à celles qu'on appelle Standard & Poor, agence de notation, un nom effectivement très éloquent, Standard et Pauvreté. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Standard et Pauvreté? Et qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de ces technocrates de quatrième classe, qui sont des ignorants, qui ne savent rien à rien, qui se font payer des salaires vertigineux, et en plus, après chaque crise qu'ils provoquent, ils augmentent leur fortune, leur richesse, parce qu'ils sont récompensés pour ces besognes, qui consistent en ruiner le monde. Ça, c'est un monde à l'envers, qui récompense ceux qui le ruinent, au lieu de les punir. Il n'y a pas un seul financier de Wall Street en prison. Parmi les banquiers qui ont promu, qui ont provoqué cette crise planétaire, pas un seul en prison, mais par contre, il y a des milliers de prisonniers parce qu'ils ont fumé de l'herbe ou parce qu'ils ont volé une poule. Et aucun de ces banquiers, ce monde est à l'envers. C'est un monde de merde. Mais ce n'est pas le seul monde possible. Et chaque fois que je viens dans ces rassemblements magnifiques avec tous ces jeunes, je sais qu'il y a un autre monde qui nous attend. Parce que ce monde de merde porte un autre monde en gestation. Et c'est les jeunes qui vont l'accoucher. Ces jeunes qui sont méprisés par les élections, qui sont régis par l'intérêt des grands partis politiques, où les jeunes ne votent pas. J'arrive d'Amérique du Sud. Les jeunes Chiliens n'ont pas voté. 2 millions de jeunes Chiliens n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté parce qu'ils ne croient pas à cette démocratie qu'on leur propose. Et alors, combien de jeunes n'ont pas voté ici en Espagne? On ne les a pas comptés. Mais parmi les 10 millions d'Espagnols qui n'ont pas voté, il doit y avoir quelques jeunes qui n'ont pas voté. Et ils n'ont pas voté parce qu'ils ne croient pas en la démocratie qu'on leur propose. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas en la démocratie, qu'ils ne croient pas en cette démocratie manipulée, prise en otage par les banquiers, par les mensonges des hommes politiques, artistes de cirque qui offrent une pirouette différente chaque jour. Il y avait un vieil homme politique en Uruguay qui n'était pas révolutionnaire ni rien. C'était un politique qui était dans le système. Mais c'était un homme qui connaissait la vie bien plus que d'autres. Il s'appelait le vieux Herrera, il parlait comme ça. Et quand on lui demandait, qu'est-ce que vous pensez si on met sénateur? Et lui disait, non, parce que celui-là, il est rond. Il appelait rond ceux qui sont devenus comme des boules à force de tourner sur eux-mêmes. Et la vérité, c'est que dans le monde politique actuel, il y a beaucoup de ronds, de boules. Et les jeunes, alors, auraient tort de ne pas croire dans ces personnages arrondis où ce sont les hommes politiques ronds qui ont tort de ne pas comprendre pourquoi les jeunes ne croient plus en eux. C'est pour ça que j'aime être ici, avec vous, à discuter comme si de rien n'était, tranquillement. Si vous m'aviez demandé de venir donner ma version du destin de l'humanité, je t'aurais dit non. Moi, j'aime parler comme ça, tranquille, avec mes semblables. Parce que nous sommes tous égaux dans la lutte, et j'espère que ça va continuer, que ça va durer. Sinon, à quoi sert de vivre, si je ne pense pas que quelque chose de meilleur m'attend? Quand on me dit que je suis un intellectuel reconnu, je dis non, je ne suis pas un intellectuel. Les intellectuels sont ceux qui ont fait divorcer la tête du corps. Moi, je ne veux pas être une tête qui se trimballe sur les chemins. Moi, je suis une personne. Je suis une tête, un corps, un sexe, un ventre, tout. Mais pas un intellectuel, cet abominable personnage. Goya le disait déjà, la raison génère des monstres. Attention avec ceux qui raisonnent uniquement. Attention, il faut raisonner et ressentir. Et quand la raison divorce du cœur, c'est le drame. Ce personnage peut te conduire à la fin de l'existence humaine, de la planète. Et quand j'en vois un qui uniquement pense mais ne ressent pas, je me dis « Aïe, quelle horreur, celui-ci est un intellectuel, quelle chose épouvantable, une tête qui roule. Moi, je ne veux pas être une tête à roulette. »
Voilà, on quitte la place de Catalunya, on quitte Barcelone, mais vraiment avec beaucoup d'émotion, parce que devant nous, il y a un cercle qui est le cercle organisé par le repère de la Basilique Jésuite de Barcelone. Et il y a une centaine de personnes de toutes sortes, de tous âges, des petits, des grands, des gros, des en short, des punks, tout ce qu'on peut imaginer, qui sont là et qui sont en train de discuter, de se prendre le chou sur des tas de sujets, de politique. C'est vraiment un atelier d'éducation politique populaire comme on en rêvait, et ça se réalise là en ce moment, et c'est génial. Il y a de plus en plus de monde et nous, on s'en va, c'est parfait, absolument parfait, grand moment. Merci. Hommage à la Catalogne.
Merci à toutes et à tous. Merci à Eduardo Galeano, magnifiquement traduit par notre Antoine Chao. Ça, c'est à réécouter, la preuve que vivre vaut la peine. Montage Guy Vanctil et Agnès Leboc. Merci à Gabriel Goduchot, à Sylviane et à Louis, ainsi qu'à tous ceux du repère de la basse où j'y suis, on l'a dit aujourd'hui. Merci à tous. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse où j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Le bouquin Parole vagabonde d'Eduardo Galeano a été publié chez Lux, éditeur québécois Lux, en octobre 2010. Et puis lisez et relisez Les veines ouvertes de l'Amérique latine, le grand classique d'Eduardo Galeano, qui est en livre de poche chez Pocket. Voilà, vous pouvez écouter, réécouter cette émission aussi sur labas.org, la-bas.org, avec un magnifique diaporama de ces moments passés à Madrid et à Barcelone. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Pascal Baldassari, Coy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Lebot, et Marina Puyez attend vos messages, quant à elle, sur le répondeur de la basse où j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et puis, les repères de la basse où j'y suis, il n'y a pas que celui de Barcelone. Il y en a un peu partout en France. Ça marche bien. On est content comme tout. Et puisque vous avez découvert que c'est nous qui avons inventé cette révolution espagnole. C'est peut-être un petit peu le contraire aussi, quand même, de temps en temps. Mais il y a des moments où le manque de modestie, c'est pas mal non plus. Les repères, ça continue. Les repères de là-bas, si j'y suis, continuent et on en est absolument ravis. Réclame.
Papa, ton entreprise, elle fait quoi pour prendre soin de notre avenir ?
Eh bien, tous les enfants des salariés ont droit à des cours de soutien, nuit et jour, et même le dimanche.
Génial !
Mais non, je taquine. Avec le contrat prévoyance Malakoff-Médéric, si tu as un gros souci de santé ou un accident, tu peux avoir un soutien pédagogique. Allez, va bosser, va.
Malakoff-Médéric prend soin des salariés et de leurs proches. Nos offres prévoyance couvrent aussi le soutien pédagogique de votre enfant en cas d'arrêt prolongé pour raison médicale. C'est ça, prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff-Médéric, présent pour votre avenir.
Écoutons Laura nous parler de ses projets.
Je viens juste de trouver le poste de mes rêves. C'est l'avenir dont j'ai toujours rêvé. Et l'avenir pour moi, c'est de faire vivre et partager ma passion, transmettre des valeurs, des savoirs, me consacrer à la réussite de chacun de mes élèves. C'est pour ça que j'ai décidé de devenir enseignante.
L'Éducation nationale recrute 17 000 personnes. Pourquoi pas vous ? Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 juillet sur l'éducationrecrute.fr. C'était un message du ministère chargé de l'Éducation nationale.
France Inter, partenaire des Francopholies de La Rochelle du 12 au 16 juillet avec France O et France 4. Je veux chanter. 5 jours de live et plus de 130 concerts avec Jean-Louis Aubert, Zaz, Cocoon, Aaron, Bernard Lavillier, Ben L'Oncle Saul, Yael Naïm, Tiken Jaffa Coli. À retrouver dans les programmes de France Inter. La nuit nous appartient. Renseignements au 05 46 50 55 77 et sur franceinter.com.
France Inter, partenaire de Stanley Kubrick, la rétrospective. Redécouvrez 2001 l'Odyssée de l'espace, Lolita, Orange Mécanique, Barry Lyndon, Shining, Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut. En copie neuve 35 mm et pour la première fois en copie numérique. Stanley Kubrick, la rétrospective, actuellement au cinéma dans toute la France, un partenariat France Inter.
Voilà, je rappelle les bémols hein, des syndicats et de certains auditeurs et même d'un journal comme Le Figaro, mais beaucoup d'autres, sur cette campagne du ministère de l'Éducation sur le recrutement des enseignants. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Angélique Point. Salut.
À Saint-Dié, dans les Vosges, on ne connaît toujours pas la cause de la mort lundi dernier de cet homme qui a succombé à de violentes nausées et maux de ventre peu après avoir mangé un sandwich avec des crudités. Nous n'avons aucune raison de croire qu'il s'agit de la bactérie qui sévit en Allemagne, déclare le procureur d'Épinal, Jean Richert, mais il ne l'exclut pas non plus formellement. Il est encore trop tôt, l'enquête se poursuit. En Allemagne, la bactérie a fait une nouvelle victime la nuit dernière, une dame âgée de 81 ans, ce qui fait 17 morts dans ce pays, un en Suède, mais qui avait transité en Allemagne. Le port de Hambourg reste l'épicentre de la contamination, mais l'on n'en connaît toujours pas l'origine. En France, la FNSE appelle à la mobilisation générale pour aider les éleveurs en manque de paille et de foin pour nourrir leur bétail. Le gouvernement va mettre des trains spéciaux à leur disposition pour faire transiter les ballots de paille vers les régions qui en ont le plus besoin, mais il faut aussi organiser des transports par la route sur de plus petites distances. Le président de la FNSEA, Xavier Belin, demande un renfort de l'armée. Il doit rencontrer à ce sujet le ministre de la Défense, Gérard Longuet. Première comparution demain de Ratko Mladic devant le tribunal pénal international de La Haye, une audience qui sera publique. Plusieurs associations de victimes de la guerre en Bosnie ont décidé d'y assister. L'ex-chef des Serbes de Bosnie viendra officiellement prendre connaissance des charges qui pèsent contre lui. Il devra dire s'il plaide coupable ou non coupable ou bien demander un délai de 30 jours avant de prendre sa décision. Le procès en tant que tel pour génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité ne s'ouvrira pas avant plusieurs mois. En Syrie, comme chaque vendredi, demain sera un jour de manifestation à l'appel des contestataires, mais demain ne sera pas un vendredi comme les autres. Les manifestants rendront un hommage particulier aux 30 enfants tués par balle dans le pays depuis le début du soulèvement. Chiffre communiqué par l'UNICEF. L'un d'eux, un petit garçon de 13 ans, effroyablement torturé et mutilé par les services de sécurité, est en train de devenir le martyr symbole de cette révolution en marche. Il est 16h02 sur Inter. On file à Roland-Garros où la première demi-finale dames vient de se terminer. Jocelyne Jean avec la victoire de la Chinoise.
Voilà, 1h48 de match. Victoire de Nali, 6-4, 7-5. Une première pour une Chinoise ici à Roland-Garros. Nali qui réussit décidément une magnifique saison puisqu'elle a déjà été finaliste en tout début d'année à l'Open d'Australie. Maria Sharapova, elle n'a pas réussi à atteindre ce qui aurait été pour la première fois de sa carrière la finale du seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. Nali, qui est une personne qui accumule les premières chinoises, donc ici en demi-finale, première chinoise en finale à l'Open d'Australie, première chinoise dans le top 10, première chinoise à avoir gagné un tournoi WTA. Elle avait terminé quatrième à Pékin aux Jeux Olympiques et elle sera opposée au match que tout le monde attend ici sur le central, la demi-finale entre Marion Bartoli et la tenante du titre, l'italienne Francesca Schiavone.
Match que nous allons bien entendu suivre sur l'antenne de France Inter. Merci Jocelyne Jean.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour des enregistrements en public du Jeu des 1000 euros dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui à Oie-Plage à 18h et demain à Berck-sur-Mer à 18h30. À très bientôt dans le Pas-de-Calais.
Tous les jours.
Dernier mot avant qu'on vous emmène.
À partir de 11h.
Flûte.
Le fou du roi.
Stéphane Bern.
Le mot que vous détestez.
Banlieue.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Leslie Caron, Thomas Schlesser et Ali Bouguer-Rabat, rendez-vous demain vendredi dès 10h devant la porte B de la Maison de Radio France.
C'est bien travaillé.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter.
La différence.
16h04 à l'après-midi se poursuit en musique avec vous Frédéric Lodéon. Bonjour.
Bonjour Angélique. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir, le très grand honneur de recevoir aujourd'hui le maître, grand pianiste, musicien en général, musicologue aussi, tout ce qu'on veut, qui fait du bien à la musique, Paul Badouras-Coda. Bonjour Paul, bonjour maestro.
Bonjour Frédéric Lodion.
Écoutez, je suis très content de vous revoir parce que nous étions l'année dernière à Lille pour Piano Festival, vous aviez joué là, pour nous. Et puis là vous venez pour plein d'activités. D'abord vous avez donné un cours de maître hier au Châtelet, c'est ça? Et puis vous avez joué aussi et vous êtes venu quand même dans notre studio. Alors c'est très aimable, c'est absolument adorable après toutes ces activités d'être venu quand même.
Chez moi, je me sens très bien.
Bon, mais écoutez, c'est parfait. Alors il y a plein de choses, je l'ai dit, des disques et puis un livre, Être musicien, qui a été publié chez Hermann Éditeur. Et bah, c'est toute une expérience. Je connais déjà un autre livre, Paul et Eva Badouras-Coda, c'est Comment jouer Mozart au piano, l'art de jouer Mozart au piano, qui m'a rendu de grands services. Et un disque qui vous plaît bien, parce que vous dites que c'est une façon de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est-à-dire on vous connaît moins, par exemple, peut-être dans Ravel ou dans Chopin. Enfin, on vous connaît surtout comme un musicien viennois, donc Schubert ou bien Mozart. Et là, ce disque publié chez Transart Live, et il vous fait particulièrement plaisir, je crois.
Oui, ça vient de mes archives et j'ai choisi les choses que je sentais le mieux réussies.
Oui.
Et surtout, je tiens beaucoup à ce choix des œuvres de Ravel, parce que ma première rencontre avec Ravel, c'était quand j'avais 18 ans, et c'était un coup de foudre. Je sentais d'emblée une espèce d'affinité avec ce grand compositeur. Cette musique me rappelait dans sa forme rigide, pudique, dirais-je, et la liberté qui naît des contraintes, ça m'a beaucoup rappelé Mozart.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est au fond ce bel habit bien coupé, et puis en même temps une sensibilité frémissante. Avant d'arriver à Ravel, c'est tout de suite, pratiquement, une étude redoutable de Frédéric Chopin, la toute première. Elle est vraiment, c'est une sorte de test pianistique. Thank you. Frédéric Chopin, première étude en do majeur, interprétée en mars 1974 à Philadelphie par notre invité Paul Badouraskoda sur un piano Steinway. Alors vous avez voulu, cher maestro, marquer le nom des instruments, parce que ça compte beaucoup pour vous quand même. Bon, là c'est un piano, on le sait, Steinway c'est plutôt brillant, plutôt un piano virtuose, on va dire, immédiat.
Oui, oui, on le sent, oui, oui, il y a ces basses puissantes, et j'aime, moi je joue sur n'importe quel piano, parce que chaque piano a ses qualités, c'est comme avec les êtres humains.
Oui, alors vous avez choisi, ou je sais pas, ou à